Voilà, chers auditeurs, nous sommes dans notre émission Point de vue. Point de vue où nous recevons aujourd'hui quatre invités. Et de Californie, nous avons M. Pascal Siamé. De Texas, nous avons M. Alphonse Abeolo. De Washington, nous avons M. Ibrahim Bachabi. Et de Iowa, nous avons M. Bernard Alassouma. Aujourd'hui, dans cette émission, il est question d'une réflexion par rapport à une opération qui a été lancée dans la ville de Cotonou. Donc, nous sommes au Bénin, et pour assainir et nettoyer, et rendre cette ville, cette grande ville commerciale de ce pays, et moderne, et pour permettre une bonne et faciliter la circulation, parce que depuis un certain temps, la circulation à Cotonou devient très douloureuse. Alors l'administration a lancé une opération qui est très mal vue par certains partis. Alors nous voulons également réfléchir et analyser et voir ce qui est les insuffisances et les avantages de cette opération. D'abord, nous allons et parler de la propriété au niveau de l'environnement et de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de l'environnement. Et après, nous allons rentrer dans la particularité de ce thème. Et nous allons écouter encore une fois Alice Pépé, qui est notre musique introductive, et pour quelques secondes, et nous allons revenir dans l'émission. Merci d'être venu, chers invités. Et lorsque nous allons revenir, nous allons également permettre à nos invités de se présenter de façon sommaire avant d'entamer les questions. Merci. Voilà, chers invités, nous sommes dans notre émission Point de vue. Nous avons aujourd'hui avec nous quatre invités qui vont se présenter. Nous commençons d'abord par notre invité de Washington.
Ah oui, bonsoir Gabin, bonsoir chers invités autour de nous. Et mon nom c'est Ibrahim Bachabi, je suis technicien audiovisuel et je vis à Washington. Et je pense que c'est le moment de dire merci à notre frère Gabin et pour tout l'effort que tu mets, n'est-ce pas, pour promouvoir la communication au sein de la diaspora, parce que ça, c'est des efforts louables. Et je profite de cette occasion pour vraiment te te remercier, n'est-ce pas, pour tous tes efforts que tu mets. Et pour le reste, je pense que nous allons pouvoir continuer. Pour ceux qui me connaissent,
Voilà.
je sais que quand on dit Bachabi, bon, beaucoup, il y a beaucoup qui me connaissent dans la diaspora.
Voilà. Merci. Merci,
C'est comme,
monsieur.
je pourrais, ouais, c'est comme ça que je pourrais me présenter. Mais s'il y a quelque chose d'autre, je peux encore
Voilà.
vous donner. Ouais.
D'accord. D'accord. Merci, monsieur Ibrahim. Nous allons à Iowa. Notre invité
Bonsoir, monsieur Corrad.
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, les frères et sœurs auditeurs. Et bonsoir, les invités. Mon nom, c'est Bernard Alassouma. J'étais ici avec vous la semaine passée. Merci.
Merci. Voilà, monsieur Bernard Lassouma est le président de l'association des Béninois de Iowa. Et nous descendons au Texas.
Bonsoir, chers amis, Pascal, Bernard, Ibrahim et Corrad. Je m'appelle Alphonse, à New Orleans, à Houston, Texas. Je suis poète et écrivain et contributeur à une magazine ici qu'on appelle Illusion et aussi un contributeur ou présentateur de la sur la radio New Vie. Mon émission est appelée à la croisée des chemins. Merci beaucoup de vous retrouver encore sur les ondes de Néovie.
Merci, merci Monsieur Alphonse. Nous allons nous retrouver à l'extrême pour notre ami de Californie.
Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Assio Pascal Siamé. Je suis dans le Silicon Valley, spécialement à Morgan Hill, banlieue de San José. Je suis dans les énergies renouvelables, c'est pourquoi le thème m'a beaucoup intéressé, parce que ça fait partie de notre secteur. Bon, regardez encore une fois, merci de préparer ce thème pour ce soir.
Merci, merci Monsieur Pascal. Nous allons revenir. Voilà, nous sommes donc dans notre émission et aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'environnement, particulièrement parce que ça cadre bien avec notre thème, le thème du jour qui est porté sur l'opération de nettoyage, d'assainissement, de déguerpissement, un grand acharnement contre les usagers qui refusent d'observer le mot d'ordre du grand puissant, je vais mettre ça en guillemets, préfet de la localité. Dans la ville de Cotonou, la rupture dans le zèle ou dans l'excès de zèle, nous verrons avec ces formulations de quoi il s'agit dans notre débat. D'abord, nous allons parler de l'environnement. Est-ce que, lorsqu'on parle de l'environnement au XXIe siècle, de quoi il s'agit au juste, Monsieur Pascal?
Merci, Damien. Bon, je ne suis pas ingénieur en environnement, mais moi, je suis ingénieur en énergie renouvelable, qui est juste une partie de l'environnement. Pour ce point, c'est Waste to Energy, comment c'est la biogaz qui m'intéresse dans le thème. Quand on parle d'environnement, je ne suis pas ingénieur en environnement. Je sais que l'environnement retouche beaucoup de domaines, mais moi je suis plus spécialisé en waste et en énergie, renouvelable énergie avec un élément du renouvelable énergie qui est waste énergie.
Voilà. OK. Merci, monsieur Pascal. Nous allons revenir. nous parlons de l'environnement, l'environnement, il y a certains facteurs qui sont rentrent dans le compte de la protection de l'environnement. Et lorsque nous parlons de cette protection de l'environnement, il faudrait que chacun à son niveau, à, dans chaque localité du globe, il faudrait que des responsables prennent leur disposition pour participer à la protection de l'environnement. N'est-ce pas, Monsieur Ibrahim?
Absolument. Bon, merci de m'avoir accordé cette chance, n'est-ce pas, de venir ici présenter, de venir ici discuter d'un sujet aussi important que c'est le sujet de l'environnement, surtout si nous savons aujourd'hui que nous vivons dans un monde où nous créons déjà, comme on le dit, les fléaux, même ici aux États-Unis, où les gens, le président Obama a toujours parlé du changement climatique. Donc, ça englobe l'environnement. Donc, si je vais juste te donner une définition ramassée de l'environnement, c'est juste l'ensemble des éléments, n'est-ce pas, qui constituent le voisinage d'un être vivant ou d'un groupe d'origine humaine, animale ou végétale. Donc, susceptible d'interagir avec lui des directions, directement ou indirectement, ce qui entoure, qui fait, bon, ce qui est bien sûr est lié, n'est-ce pas, à l'action sur l'environnement. Donc, c'est juste pour te dire que l'environnement aujourd'hui est un domaine que nous devons sauvegarder. C'est un domaine où nous devons vraiment chercher, n'est-ce pas, à protéger. Et aujourd'hui, au Bénin, malheureusement, et même dans beaucoup de pays, ça se montre autrement parce que ce n'est pas ce que nous espérons. Donc, d'accord, l'environnement, si je veux le dire aujourd'hui, c'est un travail qui doit être lié à...
Un travail collectif.
C'est à nous tous de pouvoir agir, n'est-ce pas, pour apporter un assainissement à l'environnement. Et je pense que c'est ce que le gouvernement de la rupture est en train de vouloir faire. Bon, maintenant, et je te laisserai le temps, n'est-ce pas, pour que nous rentrions dans, n'est-ce pas, la quintessence même de la chose, parce que pour le moment, nous allons être limités pour attendre peut-être les questions qui viennent. Mais ce qui est sûr, l'environnement aujourd'hui a dit mal, que ce soit dans les pays développés, que ce soit dans les pays sous-développés ou les pays en voie de développement. Le problème le plus crucial aujourd'hui, c'est comment assainir l'environnement. Et ça touche tout le monde. Nous qui sommes les pays qui n'avons pas assez de moyens, il ne faudrait pas que nous arrivions à un stade où nous ne pouvons pas vivre, où nous allons vraiment subir toutes les actions avant qu'on se rende compte de l'importance de la chose. Donc voilà ce que je peux te dire brièvement et en ce qui concerne la définition même de l'environnement et qu'est-ce que nous entendons autour de cet environnement.
Voilà. D'accord, merci monsieur Ibrahim. Nous allons revenir après cette petite pause. Voilà, et nous parlons de l'environnement. Lorsqu'on parle de l'environnement, de la protection de l'environnement, il me semble qu'il faut donc à chaque niveau, même au niveau individuel, un certain comportement. Ou bien, Alphonse, monsieur Alphonse.
Oui, naturellement. Je ne suis pas un professeur à l'université qui parle de l'environnement. Mais l'environnement, c'est là où l'on vit, notre localité, l'eau qu'on boit, l'air qu'on respire, la terre sur laquelle on marche et le chemin sur lequel on parcourt. Et c'est ça demande à être protégé. Et si ça demande à être protégé, alors comment faut-il faire la différence entre l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, qu'elle soit propre pour nous protéger nous-mêmes et protéger tout l'environnement. Ça veut dire, toi, Conard, dois protéger ta maison, derrière ta maison, pour voir que ton eau que tu utilises ne soit pas restée stagnante quelque part pour apporter les moustiques qui vont infecter la zone et piquer la famille d'à côté ou toi-même. C'est un long chemin à parcourir. Je crois que j'ai parlé.
Merci.
Matignana Tomona, Ibonge Balula. Matignana Tomona, Ibonge Balula. Nemaki niyana tumona be, metuna nyumani tomoko keitari.
Voilà, on parle de l'environnement, on parle de la protection de l'environnement, on parle des démarches qui doivent être effectuées à chaque niveau, au niveau individuel et au niveau des autorités. Mais il est aussi question de l'éducation des populations. Ou bien, monsieur Bernard.
Merci beaucoup, monsieur Coureur. L'environnement, je peux dire, c'est l'ensemble des conditions naturelles, telles que physiques, chimiques, biologiques, sociologiques, qui influencent l'existence des êtres vivants et l'humanité.
C'est ça.
Beaucoup de nos populations en Afrique ne comprennent pas encore l'importance de l'environnement. Et il doit y avoir une éducation de la base, parce que toute chose, tout fondement bien construit aide dans tout un État, aide l'évolution d'un État. La population doit être éduquée par rapport à la protection de l'environnement. Je donne un exemple. Par exemple, ce qui se passe au Bénin actuellement, il me semble que la population ne comprend pas encore l'importance de l'environnement. Et je remercie beaucoup le gouvernement actuel qui travaille pouvoir aider la population de base à comprendre mieux ce qu'est la protection de l'environnement. Merci.
Merci. Merci. On revient. On revient. Et on revient. Voilà, le problème de l'environnement. L'environnement est un problème sérieux à prendre au sérieux en Afrique. Au niveau de la population, il faut également effectivement une éducation de base, comme M. Bernard Lazare a dit. Il faut également qu'on comprenne que nous dépendons, les voisins dépendent de nous et nous dépendons des voisins et chacun à son niveau doit contribuer à ce que cet environnement et le milieu de vie et que nous partageons avec les autres soit bien protégé. Donc cette démarche, je pense, a amené le gouvernement béninois à prendre des mesures et dernièrement dans la ville de Cotonou, donc une opération qui avait été lancée. Mais avant d'aller dans ce sens, j'aimerais demander ceci, mais est-ce que la façon dont les Africains se comportent au niveau de l'habitat et autres, est-ce que cela n'a pas un impact négatif sur l'économie? Lorsqu'on voit plusieurs malades dans les hôpitaux, nous avons un budget très limité au niveau du gouvernement. Monsieur Pascal, est-ce que ça n'a pas un impact négatif sur l'économie, ce comportement?
Merci Gabin. Comme vous l'avez remarqué, j'avais fait part aux définitions de l'environnement. Et parce que si vous suivez la politique américaine, quand Trump est arrivé, la première chose qu'il a fait, c'est de rayer toute la politique environnementale d'Obama. C'est un thème très, très politique. Très, très politique. Mais je pense que ce qui se passe à Cotonou, c'est plutôt l'assainissement qui affecte plus la santé quotidienne des gens. Si c'est pour l'environnement, le maire devait même attaquer les industries qui sont à Cotonou.
C'est ça.
Donc, pas seulement les ménagers qui jettent les trucs dedans. Les sociétés pétrolières, les entreprises qui dégagent les CED dans la nature. Quand moi je parle de Westwo Energy, je ne sais pas si vous savez que dans la sous-région, il y a une entreprise d'assainissement au Ghana appelée Zoom Lion qui gère l'assainissement du Ghana, du Togo, du Bénin, de la Guinée. Ils ont même ouvert leurs portes en Sierra Leone et en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, avant d'y arriver, il faudrait que le gouvernement, le maire même, devait organiser une sensibilisation très profonde à long terme. Mettre en place des structures de mobilisation, de sensibilisation de la population. Le temps où les généraux jettent les policiers dans la population est révolu. Donc moi je pense que c'est ça même qui m'a intéressé quand tu as abordé le terme. Moi j'ai travaillé avec une entreprise qui est à New York. Ils sont partis au Ghana. Ils ont fini un projet. Ils ont fait l'étude préliminaire des ordures. Zoom Lion a un dépôt à Bon. Et bon, c'est le gouvernement du Ghana qui a remis le parcelle à Zoom Lion. Et Zoom Lion est indemnisé. Zoom Lion est payé par le gouvernement du Ghana. Zoom Lion ne fait que ramasser les ordures au Ghana et les stocker quelque part. Il y a une entreprise qui m'avait demandé l'année dernière de développer ce projet avec eux, d'aller au Ghana pour leur octroyer le PL, provisional en France, pour produire 20 MW de biogaz au Ghana. Donc, sur ça, je reviens encore sur le terme. Et nuançons bien ce que le maire de Cotonou est en train de faire et de ne pas être trop général à l'environnement. Parce que quand vous allez aller, la pollution à aller, ce n'est pas ce qui se passe à Cotonou. Si vous allez en Chine, la pollution en Chine, ce n'est pas ce qui se passe à Cotonou. Voilà. Bien sûr, c'est une composante de l'environnement. Mais si nous allons vraiment, vraiment nuancer ce qui se passe à Cotonou, si vous pouvez vraiment décrire l'activité réelle de ce qui se passe à Cotonou, ça va nous permettre de bien focaliser sur le thème de l'enjeu de ce soir.
D'accord.
Merci.
Merci. On revient.
Thank you.
Voilà, et nous sommes dans cette émission, effectivement, pour réfléchir sur ce thème qui porte sur l'opération de dégapissement, d'assainissement, de nettoyage de la ville de Cotonou. Et nous avons, dans un premier temps, faire un tour dans les réalités liées à l'environnement et pour essayer de faire cette transition vers ce problème au niveau local. Et pour nous dire simplement, aujourd'hui, lorsque nous voyons à Cotonou l'installation anarchique de certains commerces et autres, et c'est souvent lié à ce gonflement anarchique et de la population et de plusieurs personnes dans les villages et autres qui veulent tous vivre à Cotonou. Donc chacun à son niveau essaie de se débrouiller pour joindre les deux bouts. Et ça ne fait que s'envenimer de temps en temps, à chaque année, et ça devient vraiment préoccupant. Donc l'opération a été lancée. Ce qu'on reproche aujourd'hui au gouvernement, c'est de ne pas avoir un plan de dédommagement aux propriétaires des commerces. Monsieur Ibrahim. Monsieur Ibrahim. Monsieur Ibrahim n'est pas là. Allô, Monsieur Ibrahim. Voilà, et nous allons continuer avec Monsieur Bernard et on reproche. Voilà, maintenant on te reçoit.
Oh, ok. Voilà. J'étais en mute, vous m'excusez.
Ouais.
Donc, je le disais tantôt. Merci Gabin de m'accorder la parole parce que le problème du Bénin, c'est un problème vraiment très sérieux, c'est un problème crucial. Et comme je le disais tantôt, nous sommes nés au Bénin. On est presque nés, disons, à l'orée des indépendances, si je pourrais le dire. Et on a grandi à Cotonou, on a grandi jusqu'à ce que nous soyons ici dans ce pays. Le Bénin a un problème spécial. Le Bénin, c'est l'indiscipline. Et le Bénin, c'est le laisser aller. Le Bénin, c'est... Et chacun fait ce qu'il veut. Et je pense que c'est un pays où on doit changer de méthode. Parce que les politiques ont donné un certain élan à la chose. Et ça a amené toutes les populations à vivre dans une situation où on se dit, bon, écoute, on est libre, on fait ce qu'on veut. Pourquoi je dis les politiques, par exemple, c'est que à leur niveau, personne ne veut, ils savent bien qu'on doit prendre des décisions ardues pour pouvoir changer beaucoup de choses dans le pays. Mais ils ne le font pas pour la simple raison qu'ils veulent avoir la confiance des votants, qu'on puisse leur accorder peut-être un prochain mandat. Donc, comme on le dit, ils ne veulent pas casser les œufs, n'est-ce pas, pour faire les omelettes, mais juste pour permettre aux gens pour qu'ils disent, bon voilà, on a un président qui ne nous fait pas souffrir et donc qui accepte beaucoup. Et quand on accepte beaucoup, on laisse tout, les gens volent, les gens font ce qu'ils veulent, les gens s'installent là où ils veulent. Et je peux le témoigner parce que même moi-même, là où j'avais mon bureau, j'ai dû mettre le carreau juste au niveau de la voie. Parce que la terrasse donnait accès à la voie. Donc, si j'étais même au pays jusqu'à ce moment, c'est qu'on devrait capter ma terrasse. Parce que ça allait un peu vers la voie. Donc, c'est te dire sincèrement que c'est un problème qui touchait tout le monde. Moi-même, je l'avais fait en son temps, sans aucune disposition préalable. C'est-à-dire, je l'ai fait sans aller même poser problème à l'administration, et j'étais rentré sur le chemin. Parce que mon bureau était sur une voie principale et il me fallait forcément refaire la devanture, tout ça là. J'ai vitré tout, j'ai tout fait, mais il fallait donner accès à la voie et c'est ce que j'avais fait avec les fleurs, tout ça là-haut dehors pour rendre joli l'endroit. Mais c'était bien, mais malheureusement, nous rentrons dans le domaine public. Donc aujourd'hui, je le dis et je le répète, ce que le préfet est en train de faire, c'est un travail très bien. C'est un travail qu'on doit saluer tous, parce que nous sommes à l'extérieur et on voit comment ça se passe. Même ceux qui ne sont même pas à l'extérieur, on n'a même pas besoin d'être à l'extérieur pour l'apprécier. Parce que quand tu restes sur une voie, tu peux voir à peine de vue. C'est déjà quelque chose. Et quittons ce domaine même de tous ceux qui construisent sur les voies. Comme l'a dit un frère tout à l'heure, et le frère qui parlait de cette société de collecte au Ghana, c'est une société qu'on devrait prendre parce que nous vivons trop dans les ordures à Cotonou. Donc, c'est de mettre quelqu'un, c'est de prendre un président comme talon qui vient, qui dit « j'ai un seul mandat » et il vient, il applique ce qu'il faut appliquer. D'accord. Parce que je suis sûr que s'il a deux mandats, beaucoup ne voteront pas pour lui les années qui vont suivre. Parce qu'il aurait touché beaucoup de cœurs. Parce que les Béninois n'aiment pas la vérité. Donc, il faut nettoyer le pays, il faut nettoyer la ville. On a besoin de nettoyer la ville. Les carnivaux, il y a des collecteurs qu'ils ont fait, des carnivaux, de très grands carnivaux, qui collectent toutes les eaux qui viennent de presque toutes les rues de Cotonou. Ces collecteurs sont devenus des dépositoires aujourd'hui. L'eau n'arrive pas à couler parce que les gens jettent tout ce qu'ils veulent là. Les canaux sont obstrués, les gens construisent sur les carnivaux, les gens construisent sur les rues, et tout ça là, aujourd'hui, les inondations sont monnaie courante à Cotonou. Quand il pleut à Cotonou, on a pitié de certaines populations, on a pitié de les voir vivre dans des milieux remplis d'eau, dans des chambres remplies d'eau. Et il a fallu même, je me rappelle avant que je ne vienne ici, peut-être si c'était 2000, 2001 ou 2000, quelqu'un était mort comme ça, un cadre était mort, électrocuté chez lui, à cause des eaux. Est-ce que nous allons continuer à accepter ça et vouloir le bien des gens, que nous soyons en train de perdre des citoyens à cause de quoi? À cause de l'ignorance d'un certain nombre de personnes. Il faut qu'on dépasse ça aujourd'hui. Il faut qu'on dépasse ça.
C'est ça.
Il faut qu'on dépasse ça. Et moi, je regrette pour tous ceux-là qui disent aujourd'hui, ce n'est pas bien. C'est vrai qu'on devrait mettre on devrait mettre des moyens, n'est-ce pas, pour accompagner la chose. Mais là où nous nous trouvons aujourd'hui, le temps est limité pour ce gouvernement qui est là, pour pouvoir encore chercher à dire nous allons faire ci, nous allons faire ça. Tout ce qu'ils feront, les gens, ceux qui peuvent, ils vont pouvoir trouver une place et placer les gens pour le faire. Et je vous dis, il y a des gens, même présentement, qu'on a déplacés le lendemain, ils repartent encore sur les lieux. Comment vous pouvez expliquer ça? Donc, je vous dis, c'est une situation que nous devons vraiment pousser. Nous devons vraiment saluer et continuer à voir dans quels moyens ou dans quelles conditions on pourra prendre les gens et les localiser ailleurs. C'est vrai que on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Les gens vont sentir ça, mais je pense que le lendemain serait le lendemain meilleur. Merci.
Omendo me si te kainde no kwenye kaka piyanke chile. Ayi unwe ida, tege no we manota. Pugeton wo, unwabo imendo. Asi te kainde no kwenye kaka piyanke chile.
Ayi unwe ida, tege no we manota. Pugeton wo.
Ome si te kainde no wene kaka pian se tire.
Ai ueda, te te no ue.
Voilà, Monsieur Ibrahim vient de nous faire l'état des lieux de la ville et comment les gens construisent dans les rues et autres. Et les places publiques sont occupées de façon anarchique et sous le regard silencieux des autorités, puisque chacun veut défendre son électorat pour les prochaines élections et autres. Aujourd'hui, nous avons une administration dont le patron dit qu'il veut simplement un seul mandat unique. Alors, il n'a rien à perdre et il envoie le pied dans le ballon et donc il n'y a pas d'inquiétude. Donc, je pense là que c'est aussi un avantage pour lui de le faire. Et aujourd'hui, nous avons aussi le côté social. Le côté social, le Bénin, depuis un certain temps, traverse une crise sociale, économique d'ailleurs, puisque le Nigeria, notre voisin, avait interdit le transit des véhicules d'occasion vers le Nigeria, de Cotonou au Nigeria, et ce qui avait fait un très grand coup, a marqué l'économie. Il y avait plusieurs Béninois qui dépendent du port de cette activité. Et au même moment, la rupture a procédé à cette opération. Et dans un autre angle, il y avait la fermeture de plusieurs sociétés et la poursuite de certaines responsables de ces sociétés qui ont été incarcérées et autres. Donc, sous ce regard, et je pense avec cette vitesse-là, les Béninois commencent par se demander mais de quoi s'agit-il, de quoi nous héritons, de quel gouvernement, de quel... la rupture veut dire quoi exactement, puisque ça, tout se passe au même moment, c'est comme si le ciel allait tomber sur le Béninois. Monsieur Bernard, comment vous expliquez cette situation?
Merci, monsieur Courad. Je vois que cette situation, c'est une très bonne situation qui fait que le développement du Bénin est dans de bonnes mains.
C'est ça.
Vous voyez, j'avais donné une définition de l'environnement en faisant sortir le point sociologique.
C'est ça.
Ouais, la population béninoise, nous avons beaucoup, beaucoup d'opportunités au pays. Et nous pouvons développer le Bénin avec notre propre mentalité, nos activités.
C'est ça.
Tout ce qui se passe par rapport dans la société actuellement, ce qui se passe dans la société actuellement, dépend de la pauvreté, la corruption, l'ignorance et l'entêtement.
C'est ça.
Oui, le Béninois, quand il voit que ses proches commencent une activité qui se développe, lui aussi, il veut suivre la personne. Il ne développe pas son propre développement. Et c'est ce qui se passe actuellement. Lorsque le Nigeria a stoppé et le convoi des véhicules, beaucoup commencent par s'ouvrir et dire oh, qu'est-ce qui se passe? C'est pas pour qu'on soit attaqué le gouvernement. Le gouvernement ne fait rien pour aller contre le peuple béninois. Tout ce que le gouvernement peut faire, c'est pour aider le pays, le peuple, les populations à avoir du travail, surtout avec cet affaiblissement de nos rues et consorts. Les gens ont du travail, mais c'est temporaire. Si on arrivait à déguerpir ces lieux, on aurait de voir le transport sera fluide. Il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans ce dans ce domaine sociologique. Il y a la vie, comment nous vivons. Regardons les rues où les gens vendent les sans et consorts. Et ça cause des incendies dans des coins, dans les villages, dans les villes du Bénin. Oui. Vous voyez, nous devons savoir comment survivre. Oui. Et survivre avec dignité. Merci.
Merci. On revient.
Naleli Afrika na motika e, onga naleli moka, naleli bapaka bondi.
T'excuses.
D'ailleurs, qu'est-ce que tu as fait hier, toi? Toi?
Mais quoi? Est-ce que je n'avais pas le temps?
Mon Dieu. C'est comme ça qu'on refait maintenant aux gens? Hein? Hein? C'est comme ça maintenant?
Ça ne m'a rien pour me faire souffrir.
Quoi? Mon Dieu. C'est l'histoire.
Voilà, et nous avons deux frères et béninois qui reconnaissent que les démarches entamées par le gouvernement, par ce que nous appelons la rupture, est bienvenue et je venais d'expliquer les inquiétudes, les douleurs ressenties par la population locale. Et la dernière fois, cette semaine même, nous avons appris que le Nigeria a encore autorisé le transit de ces véhicules, donc une partie de ces douleurs-là, je pense, serait enlevée. Qu'est-ce que vous pensez, Monsieur Alphonse, par rapport à... Vous étiez dans l'armée avant d'être ici, et vous faisiez partie de force de l'intervention rapide. Donc, est-ce que cette installation anarchique ne pose pas un problème de sécurité?
Oui, naturellement. On ne peut pas créer une installation sans pouvoir connaître là où on va. Si tu interviens quelque part dans une situation sans analyser, ou fais l'état général des lieux. Mon existence en exil au Bénin m'a permis, surtout conducteur des émigrants, m'a permis de... Je connais topographiquement toute la zone de Cotonou, de Porto Novo. Le réel problème de Cotonou, c'est le problème d'installation de la ville. Je ne suis pas un ingénieur pont-chaussée, mais l'eau, la mer et le niveau de terre est au même niveau. Comment on peut faire le drainage pour aller vers la mer? Donc, chaque fois qu'il pleut un peu seulement, l'eau, la mer est gonflée et il vomit. Quand il vomit, l'eau revient toujours sur la terre. Et inonde toutes les zones régionales.
C'est ça.
Quand j'avais vécu ces émigrants dans Tokpa pour arriver au carrefour Étoile Rouge, c'était seulement l'époque où le goudron était pour quitter de l'Étoile Rouge pour arriver à Kourounou. C'est la guerre quand il pleut. Tu prendras 2 ou 3 heures de temps pour arriver en tombant avec ton client pour arriver là-bas. Mais l'arrivée de Soglo avait canalisé un peu la zone depuis Sainte-Rita, Sainte-Cécile, on pouvait conduire un peu. Le réel problème du Bénin ou de la ville de Cotonou, c'est qu'il faut faire un regroupement des vrais ingénieurs qu'ils s'assoient pour faire un drainage complet. Au lieu que ça va vers la mer, que ça va vers la terre dure pour faire le drainage quand il pleut que l'eau ne rentre pas dans la ville. Basant sur ça, ils doivent instruire la population à savoir que bon, si c'est ta maison qui est ici, tu es obligé de nettoyer ce caniveau de tel endroit à tel endroit. Si tu ne peux pas le faire, occuper les têtes. Et là, le gouvernement et la population civile doivent comprendre que quand Cotonou est propre, disons, il y a un adage qui dit « Les yeux sont la fenêtre sur notre sort ou notre destin ou notre inné. » Donc la ville de Cotonou, normalement, doit être la fenêtre sur le pays Bénin.
Le Bénin, oui.
Cotonou est sale. Ça veut dire que tout le pays du Bénin est sale. Si les gens peuvent comprendre cette philosophie, ils arriveront à comprendre que, ah, j'habite dans cette maison, dans cette zone, dans ce lot, ils appellent l'eau à Cotonou, je crois. Hein. Et là, mon lot doit être propre devant, derrière, à l'intérieur, le carré. Oui, c'était le nom, carré.
Oui.
Doit être propre. Quand les gens viennent chez moi, il ne faut pas que mon salon soit propre et il y a le cochon qui mange derrière ma chambre.
La peau de banane partout.
La peau de banane sur laquelle quelqu'un va tomber. Et quand on possède cette propriété, nous sommes déjà 90% de notre propre santé d'abord. Parce que quand il y a la santé, il y a les microbes, il y a l'air que tu respires est sale et tu tombes malade. Mais quand il y a propriété, tu te laves, tu te lèves, c'est comme nous-mêmes, nous les hommes, tu te lèves le matin, tu t'habilles, tu te laves et tu t'habilles, tu es propre et tu ne vas pas tomber facilement malade. Mais si tu ne manges, tu ne te laves pas, tu manges et tu restes dans la santé, tu vas tomber malade. Donc c'est sur cette philosophie-là que normalement le gouvernement, petit à petit, au niveau de l'école, au niveau des cabinets ministériels, au niveau du gouvernement, on attaque ça directement, sans fermer les yeux, parce que si on va le faire parce que je vais être élu, Au mandat prochain, rien ne changera chez nous en Afrique. C'est la maladie qui nous infecte tout ce qu'on fait, comme ceci, l'opération ville propre. Certains le comprennent comme un slogan. Est-ce que ça va continuer? Normalement, ça ne doit pas être opération ville propre, mais ça doit être opération quotidienne de ma maison propre. Et si je nettoie tout, je prends et je dépose le dépotoir là où il y a un caniveau qui va le prendre, comme Pascal l'a dit, il faut trouver des raisons. Les camions qui doivent vider les déchets, aller utiliser ça, transformer pour amener le gaz pour certains biogaz. Quand j'ai fait ma formation à l'école de la formation de... à Porto Novo,
l'agro-pastoral.
L'agro-pastoral appelé, le nom de l'école m'échappe un peu, qu'on appelle la ville, une capitale de l'empire malien appelé
Soudiata.
Non, c'est Soudiata. Le nom m'a échappé.
Voilà.
Tout ce qu'on fait là-bas se transforme. Depuis, notre nourriture, on le dépose, notre WC, tout se transforme, c'est à partir de là qu'on prépare nos nourritures. Il n'y a pas d'électricité dans ce centre-là. Le centre Songhai,
oui.
Effectivement. Géré par les pères là-bas pour permettre aux jeunes gens d'avoir un métier dans la mer. Nous ne serons pas tous des commerçants. Il aura des commerçants. Il aura des génieux, il aura des éleveurs et il aura aussi les agriculteurs.
Voilà.
Merci beaucoup.
Merci, enfin. Voilà, et nettoyage, propreté, environnement à Cotonou et une opération lancée par le gouvernement très critiquée par sur les réseaux sociaux, sur les médias et autres. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour réfléchir, pour faire cette réflexion sur l'importance de cette opération et nous commençons déjà progressivement par toucher les points, les aspects de cette opération qui vraiment relève d'une grande importance et les installations des commerces et autres. Et aujourd'hui, et nous allons parler également de la surpopulation, de cette surpopulation liée à quoi surtout il y a c'est une ville qui ressemble à un gros village où il y a plusieurs personnes et pour peu d'habitations. Et je pense également que c'est un problème que le gouvernement va aborder dans les prochains mois et autres. Et donc, quelle est votre observation, Monsieur Pascal, par rapport à ce qui se passe? Voilà, je pense que vous êtes bien informé de ce qui se passe à Cotonou. Et le gouvernement a lancé cette opération et vous connaissez bien cette ville où il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans le même lieu et la circulation pratiquement est impossible ou douloureuse. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette démarche, Monsieur Pascal?
Merci, Gabin. Quand tu m'avais appelé aujourd'hui, moi j'ai bien fait une recherche sur ce qui se passe. Oui. Il y avait déjà en 1998 une étude du projet d'assainissement des quartiers de Cotonou. Il y avait une étude depuis 1998. C'est ça. Donc moi, je t'avais dit aujourd'hui qu'au Ghana, il y a une école d'assainissement, une école d'environnement. Et quand j'ai vu l'université là, j'étais très ému. Là, j'ai dit, why? Now I understand. Mm-hmm. Because, dans le temps, quand tu vas au Ghana, tu as des plastiques partout, comme à Lomé. Mm-hmm. Mais présentement, au Ghana, il n'y en a plus. Donc, pour moi, avant que le gouvernement ne commence ceci, il y a trois points que le gouvernement devrait mettre en place. Une politique d'assainissement de la ville, pas le gouvernement. Le maire doit faire ce travail-là avec le gouvernement. Deux, est-ce qu'ils ont conçu des habitats sociaux? Est-ce qu'ils ont développé une politique d'habitats sociaux au Bénin? Trois, ces messieurs, ces dirigeants, ils tous étaient en France. Ils connaissent bien la Hollande. Ils savent que la Hollande, c'est un pays et c'est un pays qui a été gagné en luttant contre la mer. Ce ne sont pas des ressources qui manquent en Afrique. Mais c'est la volonté politique qui manque en Afrique. Ils n'ont pas besoin des milliards de dollars pour faire ce que nous disons maintenant. Ils peuvent commencer étape par étape. Si j'étais à sa place, en tant que président du Bénin, aujourd'hui, j'allais moi-même aller dans les quartiers, mettre en place un programme et commencer par les exécuter étape par étape. Mais bon, quand je vois on accuse la population, je dis non. Ce sont les politiciens et qui créent ce problème. Si un programme est déjà en place depuis 1998, et que jusqu'à ce jour, notre frère qui vient de nous dire que bon, si vous construisez aujourd'hui, on casse, demain on repart, c'est parce qu'il n'y a pas une mise en place de cette politique. Est-ce qu'ils ont construit des habitations sociales? Si le monsieur ne sait pas où dormir, vous-même dans vos villes, vous voyez des homeless sous les highways. Qu'est-ce que les maires y font pour les faire se sortir de ces endroits? Ils leur donnent des habitats sociaux. Et ce, vous voyez. Donc ce sont des trucs que le gouverneur africain doit commencer par y penser. Moi, je me demande s'ils voyagent dans ces pays occidentaux, Amérique, où est-ce qu'ils se logent? Est-ce qu'ils se logent seulement à New York? Ils ne vont pas dans les quartiers de New York. Et s'ils sont en Californie, s'ils sont à San Francisco, est-ce qu'ils ne vont pas dans les banlieues de San Francisco pour voir ce qui se passe? Ils ne vont pas dans les ranges pour voir ce qui se passe. Tout ça là constitue et un goulot d'étranglement pour le développement de l'Afrique. Le Bénin peut s'en sortir. L'eau au Bénin n'est pas aussi vaste comme l'eau en Hollande. Si vous allez à Amsterdam, Rotterdam, c'est de l'eau. Mais ils ont gagné le terrain. Et ça n'a pas été fait d'un jour à l'autre. Ça a été une politique du gouvernement, la volonté, le nationalisme des dirigeants de ces pays.
C'est ça.
Talon, son argent lui seul, peut faire au moins un tiers ou bien un centième de ce que nous parlons. Est-ce que vous voyez? Et l'ancien président, les anciens présidents du Bénin, ce sont des gens qui se sont enrichis. L'argent qu'ils ont pouvait même commencer à développer des habitats sociaux au Bénin. Quand vous cassez l'îlot du pauvre gars qui veut tout juste avoir ça pour nourrir sa famille, et vous pensez qu'il sera content? Non. Avant de le faire, il faut mettre en place des structures. Ici aux États-Unis, si vous le faites comme ça, les homeless, même les homeless, ils vont se revolter contre vous en tant que gouverneur. Donc moi, c'est ça ma tristesse de tout ce qui se passe au Bénin. Je dis encore, nous qui sommes ici, et nous devons quand même voir ce qui se passe autour de nous pour l'appliquer. Et ce n'est pas aux partis politiques à qui on a voté, non. Moi, quand je vais au Ghana, j'ai dit à mes oncles, vous avez toujours voté NDC. Moi, je suis revenu avec un projet. Je n'arrive pas à trouver des mots. Pourquoi, maman, tu votes encore pour NDC? C'est ma question que je leur ai posée. Et c'est réel. Donc, je pense que cette politique, bien sûr, ils veulent résoudre un problème. Mais avant de résoudre le problème, il faut commencer soi-même à mettre en place une solution. Merci, ça est terminé.
Merci, enfin. On revient. Merci à Torrance Dan. Et voilà, nous sommes toujours dans notre émission Point de vue. Et Point de vue, nous sommes dans la ville de Cotonou. Nous faisons une réflexion par rapport à l'opération qui se déroule dans la ville de Cotonou en ce qui concerne l'installation des commerces et autres, l'occupation des espaces publics dans cette ville depuis un certain temps. Et la rupture, la nouvelle administration a décidé de mettre fin à cette anarchie, et ce qui devient très préoccupant pour la population déjà fragilisée par cette misère-là. Et aujourd'hui, il y a plusieurs autres objectifs ont été lancés par le même gouvernement. Et donc nous trouvons, Monsieur Pascal vient de dire qu'il devrait avoir certains plans de sortie des projets, des plans de dédommagement à ces populations et avant de procéder à ces opérations. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Et en tout cas, personnellement, je pense que la politique africaine a du plomb dans les ailes, puisque depuis un certain temps, c'est comme si on essaie de comparer ou bien d'assimiler la politique à la religion. Monsieur Ibrahim, qu'est-ce que vous pensez de la réaction de Monsieur Pascal?
Merci Gabin. Merci. Je voudrais dire d'abord quelque chose. Et dans un premier temps, quand on parle de projet de gouvernement, je pense qu'en matière d'assainissement depuis la révolution de 1972, c'est bien sûr le gouvernement de Feu Kérékou.
Oui.
Et je pourrais vous dire que beaucoup de dispositions étaient prises en ce qui concerne l'assainissement de toutes les villes du pays.
C'est ça.
Ça, on ne m'a pas dit, parce que je faisais partie de tous ceux-là qui sortions pour balayer devant notre maison et dans la rue. Et on faisait tout ce qu'il fallait pour nettoyer là où on restait. et ceci était suivi parce qu'il y avait une rigueur et, comme on le dit, il y avait une peur qui hantait les populations parce que tout le monde savait que la révolution était venue avec toute une fougue qui amenait les gens à exécuter. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire par là, c'est que, et après tout cet émoussé, parce que Kérékou, à un temps donné, s'était fléchi complètement, donc les populations sont laissées à elles-mêmes. Donc, je voudrais juste dire ceci, c'est que il faut quelqu'un qui puisse imprimer sa force pour amener les gens à exécuter les lois. Parce que les lois sont là, les projets sont là, mais comme je l'ai dit tantôt, beaucoup viennent et ils pensent comment pouvoir être réélus pour un deuxième mandat ou je ne sais quoi combien de mandats. Donc pour eux, ils ne pensent pas juste venir et mettre, comme on le dit, le fouet derrière les gens et avoir une mauvaise réputation pour ne pas avoir le suffrage des électeurs. Donc, c'est là le problème, dans un premier temps. Et quand on parle aussi de projets de gouvernement, moi, je faisais partie de ceux-là que Kérékou avait choisi pour aller contrôler tous les logements sociaux. Je veux parler, bien sûr, à mon frère qui a passé tout à l'heure. Les logements sociaux, comme on l'a dit,
oui.
Le détournement, l'incivisme, et le manque de réalisme, et comment dit-on, la patrie, et tout mélangé, les gens n'ont pas pu vraiment aller à bout de ces projets. Moi, je faisais partie de ceux que quelqu'un a choisi. Et si je le parle ici, je le dis, c'est une radio, et ceux qui étaient dans mon groupe, ils me connaissent. On a fait tout le tour du Bénin.
C'est ça.
Et on avait la télévision avec nous. On avait des gens qui, pour amener le rapport, dont moi je faisais partie. Donc on a tout fait et on lui a amené le rapport. Donc qu'est-ce que je voudrais vous dire par rapport aux logements sociaux? Les gens ont détourné les sous et ils n'ont pas fait le travail comme ça se doit. Et jusqu'au jour où je vous parle aujourd'hui, dans tout le Bénin, ces logements sociaux sont éparpillés dans des brousses inachevées et sont restés comme ça jusqu'à aujourd'hui où je vous parle. Donc, on a fait le rapport, on a ramené à Kérékou, on lui a donné. On lui a remis tout avec tout un support de vidéo, avec les photos, tout ça là, pour qu'il sache exactement où en est, où se trouvaient les travaux, n'est-ce pas, d'accomplissement de ces logements sociaux. Donc ce n'est pas le projet qui ce n'est pas les projets d'assainissement qui n'existaient pas. Mais ceux qui allaient accomplir ces projets n'étaient pas disponibles ou n'étaient pas là pour le faire comme si c'était des enfants de cette nation qui souffrent aujourd'hui. Et je vous dirais que ce sont ces gens-là qui ont mis le Bénin dans cette situation aujourd'hui. Parce que ils sont pas prêts à servir comme ça se doit.
Voilà.
Donc voilà ce que je pourrais vous dire encore en ce qui concerne du nettoyage. On le faisait, mais aujourd'hui, on ne le fait pas parce que personne n'est derrière pour dire on doit le faire. Les logements sociaux, c'était vraiment lancé.
Oui.
C'est là. Moi, je n'ai pas si c'est que j'étais encore à Cotonou. Je peux vous montrer, j'ai encore beaucoup de rapports que j'ai laissés là-bas. Que je pouvais vous montrer même les photos, tout ça là. Donc, et tout ça, que ça là, ça pouvait aider. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas ça. L'argent est dilapidé, parti en l'air, dans la fumée, et les gens circulent allègrement sans qu'on ne leur dise quoi que ce soit. Et nous, on a donné le rapport au président, mais malheureusement, il n'a pu rien faire. Voilà un problème. C'est le laxisme dont on parle au sein de nos responsables ou de nos présidents des différents pays africains.
Merci, monsieur Ibrahim.
La deuxième chose, avant que je ne quitte, Gabin, je veux revenir sur un problème très crucial parce que et le frère qui a intervenu avant, et Pascal, a dit quelque chose et je voudrais revenir là-dessus.
Voilà, nous allons faire une petite pause. On va marquer cette pause, on revient. On va marquer cette pause. Merci à Joré dans ce que nous venons d'écouter. Et voilà, et nous continuons avec M. Ibrahim.